SIDA, syndrome d'immunodéficience acquise. Un virus identifié en 1983 par Luc Montagnier et Françoise Barré-Sinoussi. 2023, 40 ans plus tard, état des lieux. Une exposition au Palais de Tokyo, qui se nomme Exposé, d'après le livre d'Elisabeth Lebovici, Ce que le SIDA m'a fait. Et aussi ce roman, 95, par Philippe Joigny. Un roman essentiel pour la mémoire de cette période et de cette génération massacrée dans l'indifférence volontaire du politique. Une construction narrative avec trois présents, une écriture dépouillée, presque froide, un très grand texte. Bienvenue chez Visible.
Visible.
Visible. C'est parti. Bonjour Philippe Joigny.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci.
Sois le bienvenu.
Merci.
Lucien, Hervé, Denis, Adam, Willy, Léon, Jeff, Philippe et Alex, ils sont les protagonistes de 95, le livre que tu sors chez Grasset. Un livre qui parle du sida, d'amitié, de fête, de perte et qui commence par cette phrase « Ils tombent les uns après les autres et on les laisse tomber ». 95, c'est un titre très fort.
Oui, il est venu assez tardivement. J'ai longtemps cherché, pourtant c'est un jeu que j'aime beaucoup pratiquer, que je pratique tous les jours, je cherche des titres. Mais j'avais du mal à trouver celui-là parce qu'il a très longtemps, puisque le livre est resté dans mes tiroirs 25 ans, il a pendant 25 ans eu ce qu'on appelle un titre de travail, un titre provisoire. Et j'avais du mal à sortir de ce titre de travail et à lui trouver son titre définitif. Il y avait des dates dans les entretiens, des dates qui étaient écrites, comme on dit, au cours, c'est-à-dire en chiffres. Et puis, comme je n'aime pas dans la littérature les dates au cours, en chiffres, je les ai développées et mises au long en lettres. Et j'ai donc vu ce mot 95 se déployer sur l'écran. J'ai trouvé ça très beau, très élégant, très noble, grand. Et donc, ça m'a paru évident tout de suite que ce serait ça. C'était surtout aussi le moyen direct de placer ce texte dans le champ historique.
Mmh. Oui, parce que c'est juste avant l'arrivée des trithérapies.
95, oui, puisque les trithérapies arrivent en 96.
Ces années-là, c'est aussi un pic de l'épidémie, avec beaucoup, beaucoup de décès.
Oui, oui, bien sûr. Enfin, depuis le début de... Alors, je ne suis pas un expert de la question, mais je crois bien que depuis le début des années 90, on assiste à une explosion des décès. Oui, c'est ça, ils tombent vraiment les uns après les autres, quoi. Donc, 95, oui, c'est le pic. Enfin, en tout cas, c'est le moment où on a assisté à le plus de décès. Je crois qu'en France, je crois que c'est autour des 5000, il faudrait vérifier. Dont les trois quarts, j'imagine, à Paris, puisque l'essentiel de ces personnes vivent à Paris. Et 96, oui, on commence à arrêter l'hémorragie et à assister à un reflux lent, quand même.
Et justement, tu disais que tu l'as gardé pendant 25 ans dans un tiroir. Et pour quelle raison le sortir aujourd'hui ?
Après le premier roman sorti chez Grasset en 2019, qui s'intitulait « Comment tout a commencé », ça me semblait logique. Je suis d'une génération un petit peu particulière, puisque je suis né en 1968, ce qui fait que je vais avoir 14 ans en 82, lorsque par les médias, la télévision, la radio et les journaux arrive cette information, le cancer gay. Voilà, c'est-à-dire que c'est au moment dans ma vie où je pose un mot sur l'émotion qui m'habite. Ouais. Et donc, je comprends que je suis donc, OK, c'est ça, je suis homosexuel. Et je vois cette chose arriver devant moi. Et je sais donc que moi, je vais vers ça.
D'accord.
Donc, ça, c'est l'objet de comment tout a commencé. Après ce livre-là, il me paraissait logique d'enchaîner avec 95. En effet, il est dans mes tiroirs depuis 25 ans. Alors, l'histoire, c'est que j'ai rencontré Tim, pas toi, mais la personne avec qui j'ai fait ma vie, en 98, en début 98. Tim était le meilleur ami de Guillaume Dustan. Donc, en rencontrant Tim, je rencontre Guillaume Dustan. Et l'été de cette même année, donc 6 mois après, Guillaume nous apprend que Jean-Jacques Ogier, qui dirigeait les éditions Ballon à l'époque, lui donne un feu vert pour créer une collection de littérature, donc Le Rayon. À partir de ce moment-là, tu peux imaginer que dans l'entourage de Dustan, tous ceux qui ont le désir secret d'écrire se mettent à cogiter pour lui proposer un livre. Et moi, donc, j'ai pensé à cette histoire que j'avais vécue en 95, pas très longtemps avant, 3 ans avant. Et il se trouve que j'étais habitué à faire de grands entretiens avec des gens que je rencontrais, souvent dans des bars de nuit, des gens qui m'inspiraient, des créatures, et je leur proposais de les suivre, de les accompagner pendant des mois et des mois, et régulièrement de les interviewer, et qu'elles me racontent leur vie. Pour ce livre-là, 95, il fallait donc raconter aussi pas que ma vie, mais pas que mon histoire, mais l'histoire de tous ces amis qui m'avaient accompagné pendant cette semaine. Et je ne pouvais pas inventer certaines informations. Donc je devais aller les voir et les interviewer. Donc j'ai recueilli la parole. À partir de là, j'ai commencé à essayer d'écrire le livre et je n'y arrivais pas, tout simplement. Je n'arrivais pas à poser ma voix. J'avais procédé au découpage des entretiens, je les avais classés, ordonnés, le matériau était prêt, le dispositif était là, mais il manquait ma voix. Voilà. Donc j'ai été obligé d'abandonner ce projet, tout en sachant que je serais forcé un jour ou l'autre d'y revenir, et c'est maintenant que ça doit se faire. Maintenant, il y avait comme une urgence aussi maintenant.
Mais c'est comme s'il fallait, au regard de l'histoire que tu as vécue, avoir ce recul nécessaire. Je crois que c'est Romain Campillo qui parlait de ça pour 120 battements, en disant « Je savais que j'allais faire ce film, mais il fallait que j'ai le temps nécessaire pour avoir ce recul.
» Quand je dis que je n'arrivais pas à placer ma voix à l'époque, c'est précisément, je pense, pour cette raison-là. Mmh. C'est que j'étais trop collé à ce qui s'était passé. Et surtout, je n'étais pas... Plus exactement, recueillir la parole de mes amis 5 ans après, c'est comme avoir laissé passer un premier temps de décantation. Ouais. Et après l'abandon du projet, 25 ans, c'est comme un temps de sédimentation, de longue sédimentation, qui ne m'a pas permis de prendre de la distance, mais plutôt, en effet, pour rejoindre Robin, de la hauteur, c'est-à-dire faire percevoir au lecteur les profondeurs du champ, du temps passé et du souvenir.
Et alors, du coup, comment on fait pour retourner dans un texte qu'on a écrit à 25 ans ? Ça s'est fait naturellement ?
Non, je ne suis pas retourné dans un texte, puisque le texte, je n'avais pas réussi à l'écrire. Donc, j'ai écrit le texte. Je suis retourné dans les entretiens. Ceux-là, ils étaient là et je ne les ai pas. Alors, c'est ça aussi le deuxième temps, c'est que c'est très difficile de toucher à la parole de ces gens. Pourtant, les entretiens, quand tu retranscris mot à mot un entretien, une parole orale, tu es obligé de faire ce qu'on appelle de l'édition, d'éditer ça. Enfin, donc, il faut enlever des tics de langage, il faut lisser... Donc ça dépersonnalise un petit peu, c'est vrai, mais il faut quand même toucher ce matériau-là. Je tenais, comme plein d'époques de ma vie, je tenais un journal. Donc j'avais consigné, après cette semaine passée, j'avais consigné l'essentiel des événements dont je me souvenais. Donc voilà, la chronologie, elle était là. Ce n'était pas très difficile, mais après, c'est écrire un livre.
Et c'est justement, alors c'est un livre sur beaucoup de choses, et en premier lieu c'est un livre sur la mémoire. Je trouve ça essentiel aujourd'hui de rappeler l'époque. Est-ce que tu peux dire comment c'était d'être un jeune gay à Paris dans ces années-là ?
Non, je peux pas dire comment c'est d'être un jeune gay à Paris dans ces années-là. Je peux dire comment moi j'étais et comment mes amis étaient. Ouais, ils sont tels qu'ils sont décrits dans le livre. Ce qui est clair, et je crois que c'est ce qui apparaît clairement dans le livre, quand tu es un jeune homosexuel parisien, un jeune homosexuel et que tu es déclaré séropositif, tu fais des choix, enfin tu es forcé de faire des choix. Tu es jeune, si tu es étudiant, est-ce que tu continues, est-ce que tu poursuis tes études, est-ce que tu restes assis dans un amphithéâtre de faculté, est-ce que tu vas passer tes diplômes, si tu n'es plus étudiant et que tu es jeune travailleur, est-ce que tu ambitionnes quelque chose, est-ce que tu dessines un plan de carrière? À mon avis, non, tu ne le fais pas. En tout cas, autour de moi, je n'ai pas vu ça. Il y avait des gens qui étaient un petit peu plus âgés que moi, qui étaient inscrits déjà dans une vie professionnelle, mais tout le monde était plus ou moins précaire. Enfin, encore une fois, autour de moi, je ne peux parler que de ce que j'ai connu.
Bien sûr,
voilà, ça ne présente pas d'intérêt de rester il faut faire autre chose. Il faut se détacher le plus possible. De toute façon, on est aussi complètement abandonné. Donc, on est le monde entier ne nous regarde pas. On n'existe plus. Mmh. Donc, on est quand même dans des abysses, quoi, dans des marges très très profondes et seuls entre nous, livrés à nous-mêmes.
Oui, oui, on le voit dans le livre, dans une famille choisie entre d'amis, parce que la seule incursion dans le livre, alors c'est pas vraiment spoiler l'histoire, mais c'est vrai qu'il y a cette scène de l'enterrement qui est dingue, où il y a cette incursion dans, je vais me faire taper dessus peut-être, mais pas par toi, mais il y a cette incursion dans le monde hétérosexuel qui vous nie. Totalement.
Mais, l'essentiel de à Paris, il y a, enfin sur la scène, dans le milieu, il y a les vrais Parisiens de souche qui sont les gens qui sont nés à Paris ou qui ont grandi à Paris sont très minoritaires. Mmh. La plupart, en tout cas, si on parle de cette époque, encore une fois, je parle de 95, je parle du livre. L'essentiel des gens viennent de province. Ils sont nés et ont grandi en province, dans des endroits plus ou moins reculé, dans des villages ou des petites villes, dans un endroit où voilà, le scénario d'être homosexuel n'est pas très rose. Mmh. Donc c'est des gens qui très rapidement, diplôme en poche ou pas, se dépêchent de partir, prennent un train et montent à la capitale. À partir de là, ils arrivent à Paris, ils vont dans le Marais, parce que le Marais, c'est un lieu d'ancrage, on l'appelait le ghetto à l'époque, c'était pas péjoratif, au contraire, même. Voilà, exactement. Et dans le ghetto, tu étais sûr de trouver ton ancrage, tu poussais la porte d'un bar, tu choisissais en fait l'endroit où tu te sentais le mieux, et là, très rapidement, tu rencontrais des gens, tu rencontrais des copains, des amants, des amis. Ces amis formaient une bande très rapidement. Mmh. Enfin, de fait, cette bande devient ta famille. Et voilà. Alors après, si tu meurs, c'est ta famille qui récupère ton corps et organise les obsèques. Donc, tu repars mort, les pieds devant, dans ta province natale. Et donc, tu es enterré pas comme ce que tu as vécu. On ne t'honore pas comme ce pourquoi tu as été et ce que tu as vécu, mais au contraire, tu es récupéré, quoi. Et tu es à nouveau fondu dans cet ordre symbolique avec lequel tu n'as
aucun lien, en fait. Bah,
oui,
plus aucun lien.
Bah, tu t'es arraché à ça. Mmh. Voilà, donc c'est très choquant, évidemment.
C'est choquant et je trouve ça bien aujourd'hui d'en parler encore. C'est essentiel parce que j'ai l'impression que...
Mais parce que les gens ne savent pas ça. Les gens ne savent pas que... Enfin, les gens ne réalisent pas, quoi. J'ai l'impression que ces histoires-là sont devenues très abstraites.
Et c'était il n'y a pas si longtemps.
Tu vois, 120 battements par minute est un film essentiel, capital, qui a été extrêmement... qui a joué un rôle déterminant, hein, les gens se sont rués au cinéma pour le voir, quoi. Ouais. Les hétérosexuels, des familles, des parents, des enfants, des ados, donc très très important. Mais ce film-là te raconte ce que c'est que la lutte contre le sida et ce qu'était ACT UP et quelle importance ACT UP avait et combien ce qu'ils ont fait était dingue. Mais le fait est que la littérature ne nous a pas donné beaucoup de livres à lire sur le sujet. Peu de récits qu'on a eus à l'époque, ou même jusqu'à présent, ce sont des récits héroïsés, je dirais, conduits par des personnages publics, des personnes publiques, des célébrités, des politiques, ou en effet des politiques militants, mais dans 95, il n'est pas question de ça. Mmh. Ce sont des gens issus de milieux populaires.
Et c'est ça que je trouve intéressant, en fait, c'est que, comme tu dis, à une époque, on a documenté le sida, on a documenté le militantisme, qui, pour le coup, est extrêmement important de raconter.
C'est ça.
Sauf qu'on a peu raconté le quotidien.
Ouais, on a peu raconté les gens, simplement. Ouais. Ouais, c'était ça précisément que je voulais faire. Donc oui, c'est aussi pour ça que le mot sida disparaît. C'est aussi pour ça que certaines personnes qui sont reconnaissables derrière un voile, une gaze, je les laisse devinables. Je ne sais pas. Oui.
On peut les deviner. Il faut bien les connaître. Ou...
Oui, voilà. Enfin, il y a quelques clés qui permettent quand même de mettre des noms derrière des pseudonymes. Mais bon, voilà, ça reste des gens dans leur simplicité et dans leur petit quotidien. Même si c'est aussi des clubbeurs. C'est des gens qui choisissent un mode de vie très particulier. Ils passent par la fête, la drogue, l'excès, l'épuisement des corps.
C'est aussi des gens qui vivent quasiment dans la même maison, dans cette maison.
Oui, en tout cas, ils sont très proches. Ils vivent très 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 près les uns des autres. Ils travaillent dans un. Oui, bien sûr, c'est vrai.
C'est une bande, en fait. Il y a vraiment le côté
un clan. Oui, ouais. C'est ça.
Bravo.
Ce sont les esprits qui se...
Exactement. Et c'est aussi, du coup, on vient un peu de le dire, c'est un livre sur l'amitié, sur la famille choisie, comme un hommage à tous tes amis. Là.
Comme je l'ai dit, ces micro-cassettes qui sont devenues des textes, ils étaient dans un fond de tiroir depuis 25 ans. Et donc, j'étais responsable. J'avais un devoir de mémoire vis-à-vis de ces amis qui ont été ma première famille. Et ils sont les trois quarts morts aujourd'hui. Il y a un personnage qu'on trouve dans la scène d'ouverture du film et à la fin, qui s'appelle Coco. Coco est morte il y a 3 mois. Et ceux qui sont vivants sont dans un sale état, quoi. Mais les trois quarts sont morts, donc oui, je devais impérativement faire ce livre.
C'est beau. Ouais, c'est beau. Ça me colle un peu des frissons, ce que tu dis. Et c'est aussi un livre. C'est un livre sur le.
Non, c'est gentil.
C'est vrai. Moi, je suis guidé par l'émotion, donc.
Moi aussi.
Je trouve que c'est aussi un livre de silence. Alors, c'est très bizarre de dire un livre de silence, parce que c'est un livre où le mot sida n'est jamais écrit.
C'est vrai.
Comme si vous n'en parliez pas entre vous pendant cette semaine-là.
C'est vrai. En fait, le mot sida apparaissait plusieurs fois. Je ne veux pas dire souvent, mais il apparaissait plusieurs fois dans les entretiens. Les amis que j'ai interviewés comme ça ont utilisé ce mot. Donc j'avais le mot dans le manuscrit, plusieurs fois il revenait. Et quand je relisais le texte en cours de travail, parce que je procède comme ça, j'écris, j'imprime, je relis, je recommence, à la lecture, ce mot me gênait. Il me gênait. Et je me disais, si moi, il me gêne, il va gêner le ou les lecteurs. Je ne voulais pas que le lecteur soit gêné. J'ai compris assez rapidement que c'est un mot qui recouvre tous les mots. Pas pour nous, pas pour nous. Mais c'est un mot dont on peut se mettre à distance assez facilement. C'est un mot problématique, en fait, quoi. Et surtout, c'est pas une chose problématique, hein, entendons-nous bien. Ouais. C'est comme, par exemple, on disait des gens... Alors, on disait, pendant les années 70, quand j'étais gamin, les gens qui mouraient de cancer, on disait qu'ils étaient morts d'une longue maladie. Mmh. Tu vois, des suites d'une longue maladie. Pour les morts du sida, on a aussi dit ça. Hein,
ah oui.
Tu vois, les gens ne mouraient pas ni du cancer ni du sida. C'est des mots. Voilà, c'est ça que je veux dire par la complexité du mot.
Je trouve ça très bien ce que tu dis parce que c'est pas problématique en soi, mais non. C'est le mot en lui-même, comme cancer.
Voilà,
c'est
ça.
Et c'est aussi un livre sur la fête, la nuit, un peu les drogues, mais surtout la fête comme un besoin aussi d'exprimer quelque chose d'extrêmement vif.
Oui, bien sûr, évidemment. Oui, le livre s'ouvre d'ailleurs en club. Et à un moment donné, c'est Hervé qui dit que lui et Alex sont allés enterrer leur ami... Thierry en Normandie, et il rentre à Paris et le soir même il sort en boîte. Ouais. Quoi faire d'autre, j'ai envie de dire. Les gens, On n'allait pas se regarder les uns les autres mourir, il fallait vivre autre chose. Et puis vivre, alors c'est un peu idiot de dire vite et intensément, mais pourtant c'est de ça qu'il s'agit au
fond. C'est une urgence en fait.
Oui, c'est ça. Et en même temps, il ne faut pas oublier, enfin, ou alors il faut se rappeler que c'est les années où la musique électronique émerge vraiment, quoi. Et donc les clubs, c'est un truc qui n'a jamais existé avant. Et donc on est des clubbeurs pionniers en quelque sorte. On vit on est les premiers à vivre cette aventure-là. Et si tu aimes ça, les clubs, danser, la musique, eh bien, à ce moment-là, c'était vraiment ça qu'il y avait à faire et à le faire donc beaucoup.
C'est aussi des lieux de sociabilisation, notamment envers la communauté, avec la communauté gay.
Oui, bien sûr. Je vois pas tellement ce que tu veux dire par là.
Bah, c'est aussi un lieu où on est entre soi, peut se comprendre.
Oui.
On n'est pas. Oui. C'est pas une boîte hétéro, on va se faire casser la gueule.
Oui, c'est vrai. Et pour autant, on ne parle pas de sida, évidemment. Ouais. En club, même dans les bars, tu ne parles évidemment pas de sida, ni de lutte contre le sida. Tu vois.
Du coup, le club, c'était une parenthèse enchantée, ou ça va trop loin, ça ?
Non, il y a une phrase que j'écris dans le livre. Je crois qu'en fait, il fallait se dépenser pour ne plus avoir à penser.
Ça fait sens.
Bah oui.
Ça fait sens. Alors, moi, j'aimerais bien aussi parler de la forme particulière de ton livre. C'est une forme narrative. Alors déjà, je trouve que l'écriture, elle est dépouillée. Elle n'est pas clinique, mais elle est vraiment dépouillée sans fioritures, sans description. On va vraiment à l'essentiel. Et la forme narrative, elle est intéressante. Je trouve qu'il y a plusieurs présents.
Oui, oui. Il y a trois présents. Il y a trois temps de narration. Il y a le présent de narration qui est celui où le narrateur raconte chronologiquement ce qui s'est passé pendant cette semaine. Donc voilà, le lundi, le mardi, le mercredi, etc. jusqu'à la fin de la semaine. Il y a par-dessus temps de la parole des amis, de celle des entretiens, qui est un deuxième présent. Et par-dessus, il y a le présent de l'écriture, c'est-à-dire le présent de moi, aujourd'hui. Quel regard je pose sur cette période, sur... il fallait raconter comment ces gens vivaient, précisément.
Que tu présentes comme si... comme tu le disais tout à l'heure, tu l'évoques un peu comme si on ne parle pas de futur.
Dans le présent, alors, d'abord, il n'y a pas d'avenir, en effet. C'est un endroit où il n'y a pas d'avenir. C'est difficile de se représenter ça, surtout quand tu as 25 ans. Mais c'est un présent qui permet surtout à toi, lecteur, de le vivre au présent et donc d'y être. De la même façon, d'y être et d'avancer... jour après jour, avec le texte, quoi, d'avancer avec le texte. Et de la même façon, cet éclatement des voix et le fait qu'ils soient nombreux, j'ai su en cours de travail, j'ai vu plutôt en cours de travail que c'était une forme un peu compliquée, c'est assez complexe, et l'architecture est quand même assez... il faut y rentrer. Je pense qu'il faut se laisser aller et s'en moquer d'arriver ou pas à distinguer les voix. Mais ça a le mérite, je crois, de placer le lecteur avec eux et non pas à l'extérieur en train de les regarder. En tout cas, j'espère y être arrivé.
C'est vrai qu'au début, c'est un peu déroutant et très vite, on s'y fait. Enfin, on est happé. Totalement. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est en tant qu'auteur, comment on décide de cette narration ? C'est les enregistrements qui ont décidé ça ou pas du tout ?
Les enregistrements, comme je le dis, il fallait les faire parce que, par exemple, je ne sais pas, moi, comment Hervé a rencontré Alex. Je ne sais pas comment Denis a rencontré Hervé. Je le sais dans les grandes lignes, mais moi j'ai besoin pour faire un livre de détails, donc j'ai besoin de les faire parler. À partir du moment où j'ai leur voix, où j'ai les entretiens, je me dis, ah tiens, ce serait pas mal que je les garde plutôt que je me les approprie et que je les fonde dans ma narration. Je vais les poser là, ce sera un livre choral et ce sera très beau. Bon, après, il y a cet échec de l'écriture dont j'ai parlé tout à l'heure, Et puis, il y a quelques années, avant de me mettre à ce travail, peut-être que j'étais déjà dans le chantier, j'ai lu Les années d'Annie Ernaux. Mmh. Ce très, 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 très grand et beau texte, et c'est un montage entre deux voix, mais il y a deux narrations, il y a des paragraphes auxquels conduit à la troisième personne du singulier, c'est elle, et elle décrit des photos qui sont issues de ses albums de famille, enfin de ses albums de photos, donc elle se décrit elle, elle dit elle est debout devant la voiture flanquée de part et d'autre de ses deux garçons, par exemple. Et puis, il y a des paragraphes qui sont conduits à la troisième personne neutre, un « on », qui décrivent comment on vivait dans les années 40, d'accord, comment ouais. on vivait dans les années 50, etc., dans les années 60, etc. Et donc là, j'ai compris qu'il fallait, moi aussi, que je pose cette voix-là, ce regard-là sur ces années-là, enfin, cette période-là. D'où est venu ce troisième présent de la narration. Du coup, ça, l'architecture s'est encore complexifiée, mais au moins, ça s'est déployé et ça, il me semblait que ça lui donnait de la grandeur. Oui.
Bah, moi, ça m'a très vite fait penser au fameux patchwork ouais. des luttes contre le sida, ouais. de tous ces défilés contre le sida. Il y a vraiment ces patchworks qu'on peut voir au Palais de Tokyo, mais on va venir un peu plus tard dans l'émission sur ouais. l'exposition exposée. Et je trouvais ça très beau, en fait. Je me suis vraiment imaginé ce patchwork, sauf que c'est pas du tissu et tout, c'est juste des mots et des chapitres et une construction narrative. Et je trouvais ça vraiment très beau.
Oui, je comprends ce que tu dis. Je perçois en effet il y a de la couture dans ce texte. Il faut raccrocher chaque prise de parole au paragraphe précédent et l'enchaîner avec le paragraphe d'après. Il faut rentrer dans un morceau d'entretien et puis en sortir. Donc il faut coudre tout ça ensemble. Donc en effet, je vois ce que tu veux dire. D'autant qu'à la fin, on a ces carrés ou ces blocs mmh. plutôt de présent ceci, présent cela. Enfin, ces trois niveaux de narration qui sont de présents qui sont éclatés, qui sont recomposés. Mmh. Donc je peux percevoir ce que... Oui, bien sûr.
Et alors,
même si je n'y ai pas pensé en l'écrivant, mais oui, je comprends.
En même temps, ça doit être pas difficile, mais à un moment, le texte, une fois que tu le sors, il ne t'appartient plus, il appartient à des lecteurs qui voient du coup des choses comme ça.
Alors, surtout quand j'ai eu terminé le travail, j'ai traversé un vrai temps de sidération complet.
Ah bon ?
Complète. Oui, je n'arrivais pas à comprendre comment j'avais réussi à faire ça 25 ans après. Je n'en revenais pas.
Comme si c'était en toi pendant tout ce temps et d'un coup, pff,
c'est une sorte de... C'est assez étrange, quoi. Ça fait 25 ans que c'est. 25 ans, c'est un quart de siècle. Hein. C'est beaucoup, 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 beaucoup. Non, je n'en revenais pas vraiment au sens propre du terme. Et j'avais aussi la sensation très étrange que cet objet était plus grand que moi. Ça me dépassait. Mais là encore, au sens premier du terme, quoi, j'étais sidéré.
C'est plutôt un gage de réussite.
Je ne sais pas. je pourrais aussi me voiler la face, tu vois. Mais j'ai eu peur, en effet, de la réception. Je ne m'attendais pas à une réception. Pareil en fait.
Il est très bien reçu.
Oui, il est très bien, très très bien reçu, c'est vrai, y compris par la presse quoi. Je m'attendais pas à ça, c'est vrai. J'avais pas du tout évidemment envisagé ça. Donc c'est très 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 touchant.
Bravo.
Merci.
Alors le livre, il est dédié à la mémoire de Guillaume Dustan. C'était un ami. Comment vous vous êtes rencontrés?
Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'était le meilleur ami de Tim que je rencontre le 28 janvier 1998. Donc j'ai rencontré William, le meilleur ami de Tim, très rapidement, quelques semaines après.
Et quel souvenir tu gardes de lui ?
Une très très grande douceur et une très très grande sensibilité, beaucoup de finesse, une intelligence évidemment hors norme. Enfin, ça, je dis évidemment parce que ça, on le sait. Mais il me manque, c'est tout.
C'est beau. Parlons maintenant de l'exposé. C'est au Palais de Tokyo jusqu'au 14 mai 2023. D'après l'essai d'Elisabeth Lebovici, ce que le sida m'a fait. Tu signes un très beau texte dans le catalogue de l'exposition. Comment ça s'est passé ?
Elisabeth est une amie depuis la même période. On s'est rencontrés en boîte de nuit, en 98 aussi. C'était une année fondamentale, 98, dans ma vie. Et donc, pour cette exposition, Elisabeth tenait à ce que Tim et moi soyons dans le livre qui accompagne l'exposition. Donc, il y a eu une réunion de préparatoire avec François Piron, le commissaire de l'expo, et Elisabeth. Et voilà, il fallait écrire un texte sur le sida. Je sortais de l'écriture du livre, j'étais un peu fatigué d'écrire sur le sida, je dois dire. Mais ok, j'étais évidemment honoré qu'on... Et puis j'aimais l'idée que Tim et moi soyons présents. Puis dans le livre, il y a beaucoup de nos amis, donc c'est très très touchant. Donc il fallait y être, il fallait le faire. Seulement j'ai dit à cette réunion préparatoire que moi, je n'avais pas énormément, pas grand-chose à raconter. C'est paradoxal après avoir écrit le livre, mais j'avais beaucoup écrit dans le livre et je n'avais pas grand-chose à raconter sur moi, parce que moi, dans cette histoire-là, il ne m'est pas arrivé grand-chose. J'ai dit en revanche, je connais quelqu'un à qui il est arrivé pas mal d'histoires très très compliquées, et c'est Tim, mon époux aujourd'hui. Voilà. Donc à partir de là, Tim a eu un peu peur de ce que j'allais écrire. Tout le monde était en revanche très enthousiaste et attendait ce texte avec beaucoup d'impatience, parce que tout le monde connaît le dossier médical de Tim, qui est impressionnant. Et je me suis mis à écrire ça. Alors, en effet, ça commence par la mort du petit ami qui était le sien avant moi, qui est mort en 94, et dans des conditions tout simplement abominables. Et ça me faisait très plaisir de non pas ressusciter, mais de faire vivre d'une façon... ou d'une autre, Christopher, puisqu'il s'appelle Christopher.
C'est un texte qu'on peut lire dans le catalogue de l'exposition. On peut aussi le trouver sur Internet gratuitement. Donc, je vous encourage à aller le lire. Pardon ?
Non, sur le site du palais, oui. Oui,
exactement. Je mettrai le lien en description. Et contrairement à 95, c'est un texte où il y a énormément de descriptions. Qui fonctionne très bien. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure avant d'allumer les micros. Et c'est une douce foreuse qui nous rentre dans la tête.
Oui, oui, j'ai l'impression que c'est que ça. Ça, je m'en suis rendu compte en écrivant. Je m'en suis rendu compte de la puissance de cet objet. C'est un texte que je ne pouvais pas écrire à la première personne. Je ne pouvais pas dire je. Je ne peux pas dire je dans ce texte. D'abord, c'est un texte duquel je dois m'absenter, absolument. Je n'ai rien à faire dans ce texte. Je n'y suis pas. Ce n'est pas moi. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de Tim à 30 ans, c'est-à-dire d'un Tim que je ne connais pas, et de son petit ami que je connais encore moins, puisqu'il est mort en 94. Donc, je n'ai rien à faire dans ce texte-là. Paradoxalement.
Mais tu l'écris,
voilà, c'est ça. Voilà. Oui, oui, mais je dois m'absenter. C'est ça que je veux dire. Donc il y a un petit jeu, deux petits jeux au début du texte quand il m'appelle pour voir cette photo. Mais c'est tout. Après, je disparais. Et donc, ça n'est qu'un tu. C'est une adresse, en fait. Je m'adresse à lui sans m'adresser véritablement à lui. Je le décris comme un personnage qui passe comme ça et qui fait voilà, tu fais ceci, tu fais cela. Donc, je décris avec beaucoup de. Méticuleusement, je décris oui, des situations de maladie, des symptômes, en les détaillant le plus possible, en étant le plus précis possible.
C'est limite une liste à un moment.
Oui, alors.
Il y a eu énormément de pathologies.
Oui, et des médicaments, et des effets secondaires. Et, oui, comme ça, le lecteur prend conscience un petit peu.
Exactement, on prend totalement conscience de ce que c'était à cette époque-là.
Et de la violence de la chose. Ouais.
Et ça se finit aussi sur les pays qui refusent l'entrée sur leur territoire des personnes.
Oui, c'est ça, oui, oui, oui. Tu n'as pas le droit de mettre un pied aux États-Unis, au Canada. Enfin, ils sont nombreux, la liste est longue. Puis il y a d'autres pays où il vaut mieux pas aller, sinon tu vas l'Inde, l'Afrique, l'Asie. Ton estomac et ton tube digestif auraient beaucoup de mal à supporter. Et donc la carte se réduit considérablement.
Philippe Joigny. J'ai été conquis par ton livre. Il est difficile pour moi d'exprimer des superlatifs, mais je te remercie pour 95. Tu signes un roman essentiel pour la mémoire de cette génération massacrée dans l'indifférence volontaire du politique. Il faut rappeler quand même qu'il y avait à l'époque une quasi-totale absence d'action des pouvoirs publics Aujourd'hui, ça nous semble aberrant, mais je pense que c'est essentiel de le rappeler, non ?
Ça n'existe pas, tout simplement. Ça n'existe pas. François Mitterrand, en deux septennats, n'a pas prononcé une seule fois le mot sida. Ronald Reagan, aux États-Unis, ne l'a pas prononcé non plus une seule fois. Si tu ne nommes pas une chose, elle n'existe pas. Donc, non, quand je disais tout à l'heure qu'on était abandonné, oui, on est pour le coup. Je crois que même la publicité, les publicités pour les préservatifs, c'est interdit. On n'imagine pas ça. Et c'est Michel Barzac, ministre de droite, en 87, tu vois, qui... Voilà. C'est ça n'a aucun sens. Enfin, il y a ça, ce truc-là aussi. C'est assez dingue. Tu es dans une situation qui n'a aucun sens.
Bah, d'abandon total. Et je trouve que... au regard de ce qui s'est passé en 2020 au niveau de la planète, du Covid, on a parlé de la plus grande pandémie depuis la grippe espagnole du début du XXe siècle. Une fois de plus...
Oui, en niant cet épisode-là, oui, n'a pas existé.
Et sauf qu'on a mis les moyens. Cette fois-ci, on a mis les moyens. Oui. Je trouve que, en fait, quand on lit ton livre et on se remémore ces années-là, on se dit, mais...
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Exactement.
Ouais. Oui, bien sûr. Oui, je me souviens très bien de l'annonce je sais plus lequel, nous annonce que des vaccins vont être mis au point et ils sont promis pour dans les 6 mois. Tout de suite sur les réseaux sociaux, ça s'enflamme, c'est la colère, c'est inécoutable.
C'est la colère d'anciens militants d'ACT UP, notamment, je pense à Gwen Fouchouin, par exemple.
Oui, bah, évidemment, bien sûr.
J'ai du mal à du coup raccrocher les wagons parce que je trouve ça tellement vraiment en fait quand on se replace dans ce contexte de 2020, de tout ce qui a été fait, de confinement, de couvre-feu, de masques, de vaccins, de recherche, de tout ça, tous les moyens qui ont été déployés, sauf que dans les années 80 et 90, on a laissé crever les homosexuels, les érinomanes. Et je trouve ça, je trouve ça rageant. Je trouve qu'il y a beaucoup de colère et voilà. Je ne sais pas quoi en dire.
Non, mais moi non plus, tu vois, je ne sais pas quoi en dire. C'est... Non, moi non plus, j'ai pas de mots pour ça, c'est vrai.
En tout cas, 2023, c'est 40 ans.
C'est les 40. Oui, ça fait c'est en 83 que l'équipe de Luc Montagnier identifie le virus. Oui, c'est vrai. Donc du coup, ça veut dire que 40 ans après, on est maintenant dans un temps, dans le temps de l'histoire et dans le temps des archives. Et donc c'est peut-être pour ça aussi que le livre il a cette fonction historique. C'est peut-être pour ça qu'il est si bien reçu finalement, parce que je pense que les jeunes générations sont très demandeuses d'informations, de savoir ce qui s'est passé. Enfin, c'est leur histoire aussi. Donc, ceux qui auraient dû la leur donner, leur livrer, sont morts pour la plupart. Et puis, les gens on va dire le grand public, la société, les gens de nos générations ne sont pas, je pense, ne se sentent pas responsables de la chape la chape de silence qui a été posée sur ça à l'époque. Et donc, ils peuvent s'emparer de l'histoire.
Donc, il y a ton livre, il y a cette exposition au Palais de Tokyo. Tu me disais qu'il y avait une exposition aussi qui se prépare à Strasbourg.
C'est ça, oui.
Et du coup, toi, qu'est-ce que tu vas faire ensuite ?
Ah ! J'aimerais bien dire prendre des vacances, mais non, j'ai commencé un autre roman, voilà, c'est vrai. Mais j'ai dû l'interrompre pour venir te voir, entre autres.
Ah, c'est gentil. Philippe Joanny, merci infiniment.
Mais
c'était
merci
un
toi.
Plaisir. Merci beaucoup.
Merci.